Bonjour à tous. Et moi, je suis émerveillé, encore une fois de plus, de la façon dont notre Seigneur, par son Saint-Esprit, on peut le dire, dirige les choses. C'est sûr, c'est Pâques, c'est vrai, on a ça à cœur, c'est quelque chose d'important, ça prend de la place dans nos vies, cette fête de Pâques. Et de réaliser toujours plus que notre Seigneur est ressuscité, notre Seigneur est réellement ressuscité. Et quelle certitude cela est pour nous. Quel encouragement de savoir qu'il est vivant. Et c'est avec cette notion, cette pensée de victoire sur la mort et sur le mal aussi que je voudrais ce matin rebondir sur ces sujets. Et je voudrais vraiment remercier avant. Seigneur, merci parce que la façon dont tu diriges les choses. Merci pour cette louange. Merci pour ces chants. Merci pour ces versets. Merci pour mes frères et sœurs qui sont là, Seigneur, parce que tu me les as donnés, tu nous as donnés les uns aux autres pour que nous grandissions ensemble, pour que nous puissions faire monter cette louange, pour que tu nous donnes de la joie au fond de nous. Merci, sois loué, Seigneur. Amen. Et évidemment, on l'a rappelé, avant le miracle de la résurrection, il y a eu le miracle de la mort du Seigneur. Moi, je dis que c'est un miracle, parce que comment est-il possible qu'un Dieu tel que nous l'avons puisse mourir? Il n'est pas possible que Dieu puisse mourir. Et on l'a rappelé dimanche dernier, Christ est mort volontairement tout en vivant les souffrances horribles de la croix. Et encore avant cela, il a souffert cette humiliation extrême en subissant les injures et les moqueries, et tout cela tout en portant sa croix. Et moi, ce qui me touche avant aussi, c'est avant que Christ subisse ce châtiment, il exhorte ses disciples. Et la foule et leur enseigne de se charger de leur croix s'ils veulent le suivre. On rechantera ce chant à la fin du culte. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Je crois que c'est ça. Hein. Et je voudrais justement revenir ce matin sur ce sens de cet épisode et voir ensemble l'application que nous pouvons en retirer. Nous vivons dans une société qui, soi-disant, sous couvert de tolérance, se radicalise contre tout principe ayant une inspiration biblique. Quelques exemples. La création, le péché, le mariage, le travail, avec aussi le repos, le respect des autorités et encore bien d'autres certainement. Et à notre insu, nous sommes bombardés de messages s'opposant à ce que nous lisons dans la parole de Dieu. Et par notre mécanisme de raisonnement, une petite voix nous susurre à l'oreille. La parole de Dieu dit-elle réellement cela? Est-ce que tu as raison de prendre ces mots à la lettre? Et cette même manipulation que le serpent a utilisée pour séduire Adam et Ève, et que Satan aussi à utiliser pour essayer de tenter Jésus, nous, chrétiens en tant que petit Christ, en sommes la cible aussi de la même façon. Et tout ça pour nous faire dévier de l'enseignement de Christ. Justement, les paroles de Christ, à elles seules, suffisent à nous fonder sur des principes sûrs et solides. Mais même là, il arrive de les tordre pour adapter leur message à notre compréhension humaine. Et je vous propose donc de méditer ces paroles. Lorsque, bien avant que Christ ait porté sa croix, et étonnamment que cela puisse paraître, Jésus exhorte chacun à se charger de sa croix. Et je vous propose de lire ce passage. Il va être affiché, Marc 8, verset 31. Et je rappelle, c'est une exhortation qui est donnée à la fois à ses disciples et à la foule. Alors il commença à leur apprendre qu'il fallait que le Fils de l'homme souffrît beaucoup, qu'il fût rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il fût mis à mort et qu'il ressuscitera 3 jours après. Et il leur disait ces choses ouvertement, et Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre. Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre et dit: « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu, tu n'as que des pensées humaines. » Puis, ayant appelé la foule avec ses disciples, il leur dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Voilà donc le message central de cet enseignement de Jésus, le verset 34, qui évoque ce programme pas très engageant, donc de notre renoncement et de la charge de notre croix. Et avant d'aller plus loin, il me semble intéressant de voir dans quel contexte notre Seigneur expose cette pensée. Tout d'abord, on ne l'a pas lu, mais ce qui précède ce passage est la reconnaissance de Jésus par Pierre comme étant le Christ. Là, c'est une découverte, une nouvelle. Mais ce n'était pas le seul. Avant lui, il y avait les mages, il y a Siméon, il y a Anne, qui ont reconnu Jésus comme étant le Messie promis. Il y a les esprits impurs qui ont reconnu, eux, assez facilement que Jésus était le Saint de Dieu. Ensuite, il y avait les religieux de l'époque, alors qui, eux, l'ont considéré comme étant Belzébuth ou comme étant un blasphémateur. Et enfin, il y a la foule, avec peut-être les disciples, cette majorité silencieuse qui raisonnait entre eux et qui ne savait pas trop, qui n'avait pas compris le miracle des pains, et qui s'étonnait que même le vent et la mer lui obéissent. Et par la suite, il y a le centurion témoin de la mort de Jésus sur la croix, qui l'atteste qu'il est certainement le Fils de Dieu. Et puis ça continue, après sa résurrection, il y a tous ceux qui finalement le reconnaissent après coup, soit dans la fraction du pain, soit en voyant les traces des clous sur ses mains, ou soit en s'entretenant avec lui. Là, dans ce passage, quelle surprise, Pierre, ici, expose une vérité. Jésus est le Christ. Et là, alors, de suite, Jésus s'empresse de faire taire cette vérité. Comme il ne voulait pas que cette vérité-là se répande. Tant que finalement, lui ne donne pas la vraie définition de ce mot Christ. Et c'est pourquoi, dans l'évangile de Marc, en tous les cas, aussitôt, Jésus commence à leur enseigner sa version du mot Christ. Et là, nous en sommes déjà au chapitre 8, Marc en compte 16. Et seulement là, il commence à détailler quel est le plan de ce mot Christ. Il commence à leur enseigner la version divine de ce nom, et non pas celle finalement, de l'interprétation humaine, et bien qu'elle soit d'inspiration biblique. Jusqu'à présent, Jésus avait donné beaucoup d'enseignements à partir des paraboles, avait fait des miracles, s'était opposé franchement aux pharisiens, mais la plupart des personnes, basées sur une interprétation humaine des textes bibliques, attendaient un Messie puissant, un Messie qui allait rétablir le peuple d'Israël. Et jamais, alors, le Seigneur avait explicitement parlé de sa mort et de sa résurrection. Jamais encore, il avait présenté ouvertement Christ selon le plan de Dieu. Cette notion du Fils de l'homme qui doit souffrir beaucoup, qui est rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qui est mis à mort et qui doit ressusciter 3 jours après, cette notion-là, elle est complètement inacceptable pour ceux qui entendent cela. Pourtant, les religieux de l'époque connaissaient parfaitement la loi et les textes des prophètes, particulièrement Ésaïe 53, qui présente vraiment clairement l'œuvre du Seigneur au moment de la croix. Mais malgré ces textes, qui pour nous sont une évidence même maintenant, les Juifs avaient une toute autre interprétation de ce que devait être le Messie. Et évidemment, Pierre, un pécheur, un saint pécheur, n'imagine absolument pas ce scénario de la croix, et puis il réagit donc immédiatement. Il est conforté par sa bonne première réponse, fier de lui, motivé par son raisonnement humain infaillible. Il a même l'audace de prendre Jésus à part et se permet de le reprendre aussi lui ouvertement. Humainement, il n'est pas concevable que le Messie, le Christ, passe par la mort. Et là, la réponse du Seigneur est tout aussi virulente. « Arrière de moi, Satan, car tu ne conçois pas les choses de Dieu. Tu n'as que des pensées humaines. » dure parole. Et notre Seigneur ne veut pas dire là que Pierre est Satan, hein, ou même qu'il soit possédé par Satan. Mais ces paroles, issues de la pensée humaine, sont en fait d'inspiration satanique. Visiblement, disant ces paroles, Jésus ne s'adresse pas spécifiquement à Pierre. On voit au début du verset 33, il se tourne pour regarder les disciples, pour s'adresser à chacun d'eux et finalement en conséquence s'adresser aussi à chacun de nous. Tout ça pour faire comprendre à chacun que cela aussi aurait bien pu être aussi pour eux aussi, aurait pu leur arriver. Jésus, tenté pendant 40 jours dans le désert, a maintenu son inspiration dans les choses de Dieu. En revanche, Adam et Ève, au moment de la chute, et Pierre ici, ont interprété le message divin qui leur avait été enseigné et qu'ils avaient culturellement assimilé par leur seule interprétation et compréhension humaine. Alors quant à nous, fiers de notre sagesse, de nos raisonnements humains et même de notre connaissance biblique, comment comprenons-nous le message de Dieu ? Est-ce que nous nous laissons surprendre par elle, ou bien faisons-nous notre propre recette pour adapter son message à notre compréhension? Jean-Paul, si tu vas me corriger, il me semble, jeudi à la semaine dernière, non c'était cette semaine, je sais plus, bref, nous a annoncé qu'il existait plus de 3000 dénominations chrétiennes évangéliques, c'est ça 3000? Pardon, j'ai oublié un zéro. Non, déjà, c'était... Bon, bref. 30 000. Donc, dénominations chrétiennes dans le monde. Et puis là, la plupart de ces membres, de ces différentes communautés, sont convaincus qu'ils sont meilleurs chrétiens que les autres. Je dis la plupart, pas tous, hein, parce qu'il y a quand même des bons aussi. Et parce qu'ils traitent un sujet qu'ils jugent prépondérant mieux que les autres. Je pense que ça doit être ça la raison. Et n'y a-t-il pas, finalement, derrière ce chiffre, finalement beaucoup de raisonnements humains qui nous abusent, même s'ils sont à la fois solidement étayés par la parole de Dieu et ancrés dans la culture religieuse dans laquelle nous évoluons? Mais ces raisonnements sont-ils légitimes? Jean, dans ses épîtres, nous dit qu'il faut éprouver toute chose pour savoir si cela vient de Dieu. Car Pierre précise, lui, que nous serons exploités au moyen de paroles trompeuses. Et c'est pourquoi les premiers chrétiens de Bérée l'avaient bien compris, ils examinaient chaque jour dans les Écritures pour contrôler si ce que disaient les apôtres était vrai. Je le répète, laissons-nous surprendre par les Écritures. Osons faire un recette, je ne sais pas si c'est le bon terme en anglais, de notre compréhension biblique. L'Épître aux Hébreux nous exhorte à nous souvenir de nos conducteurs qui nous ont annoncé la parole de Dieu en considérant leur fin. Cela ne veut pas forcément dire que nous devons appliquer à la lettre tout leur enseignement, mais plutôt retenir et appliquer ce qui est vrai, ce qui a été un témoignage jusqu'à la fin. Et pour terminer sur ce point, je vous laisse encore deux versets que je souhaite personnellement moi avoir gravés dans mon cœur, ils sont soulignés dans ma Bible. 1 Corinthiens 3, verset 18, « Que nul ne s'abuse lui-même, si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, qu'il devienne fou afin de devenir sage. » Et Galates 6, verset 3, « Si quelqu'un pense être quelque chose, qu'il ne soit rien, il s'abuse lui-même. » C'est vrai, il y a un risque pour ceux qui ont des responsabilités dans l'Église ou dans le service pour notre Seigneur. L'orgueil, qui fait que nous nous abusons nous-mêmes, ce travers humain qui fait que nous sentons rapidement incontournables, alors que nous sommes des serviteurs inutiles. Bien entendu, levons-nous pour nous mettre tous à son service. Mais renonçons donc à être quelque chose. Quelque chose du point de vue humain dans le service pour notre Seigneur. C'est le message central de cet enseignement avec ce verset 34, où Jésus appelle la foule et ses disciples, où Jésus m'appelle. Vous remarquerez la progression au niveau de l'auditoire, Pierre et les disciples par rapport à ses souffrances. et ici les dissiper la foule par rapport au programme peu engageant qui attendent ceux qui veulent suivre Jésus-Christ. Alors je relis ce programme. Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Je sais pas, mais vous imaginez cette scène? Les têtes des disciples et des personnes là dans la foule, en entendant ces paroles contre nature, il n'y a pas mieux. Le but du message de l'évangile finalement est que les gens suivent Jésus, qu'elles s'engagent et non pas qu'elles fuient. Nous-mêmes, lorsque nous témoignons de notre foi aux incrédules, ben nous mettons en avant la paix, la sérénité, le bonheur, la joie, la réponse à nos prières, voire des miracles que nous vivons depuis que nous avons mis notre confiance en Dieu. Mais avertissons-les aussi qu'ils doivent mourir avant de revivre. Justement ici, notre Seigneur nous prend complètement à contre-pied. Quel programme ! Vous imaginez un de nos candidats à la présidentielle tenir un tel discours ? Pour perdre des voix, finalement, il n'y a pas meilleure contre-publicité. Mais Jésus n'est pas un homme politique qui fait étalage de promesses séduisantes, même si lui aurait finalement la capacité de toutes les tenir. Non, au contraire, son discours à la foule est un programme rétrograde, voire déprimant, si nous le lisons avec nos yeux humains seulement. Son message central est en quelque sorte, je résume, « Si quelqu'un veut me suivre, qu'il souffre et qu'il meure ». Alors il y a bien le « si » qui laisse entrevoir quand même un choix à celui qui veut suivre. Néanmoins, où est la bonne nouvelle dans de telles paroles ? Que penser de ces paroles ? Qui ne font que confirmer que les pensées des hommes ne sont pas celles de Dieu. Finalement, suivre Jésus n'est ni plus ni moins que se renier et prendre sa croix. C'est prendre le chemin opposé de ce que le monde dans lequel nous vivons m'a appris, tel que la possibilité de se réaliser, de réaliser mes rêves. Rémi. Comme Pierre, avec sa simple sagesse humaine, et malgré sa proximité de Jésus, il n'est pas concevable humainement d'entendre de tels enseignements. Éric Nonimal a écrit « Se renier, c'est aller à l'encontre de ses propres intérêts et abandonner ses envies, ses pulsions, ses attentes. C'est laisser tomber cette farouche volonté de se réaliser, de s'accomplir, d'être soi et ainsi de devenir son propre Dieu. Se renier, c'est rejeter avec force ce en quoi on a cru et espéré jusqu'ici. » Et là, comme notre Seigneur l'a promis, le Saint-Esprit est là pour faire germer et grandir cette parole. Si renoncer à soi-même implique une démarche individuelle et spirituelle, se charger de sa croix implique un engagement physique et public. C'est surprenant que Jésus prenne cette image, car à ce moment-là, Christ n'a pas encore porté la sienne, n'a pas porté sa croix. Et je note au passage que le Seigneur parle de se charger de sa croix, la nôtre et non pas la sienne. Seul Christ a vécu cet épisode de la croix avec ce moment très particulier où Dieu a dû s'absenter à cause du péché de l'humanité qui a été présenté là à la croix et puis effacé. Incompatible avec le péché, finalement, Dieu n'avait pas d'autre choix que d'abandonner la victime. Pas de Dieu, il quitte les lieux, automatiquement, il y a les ténèbres, même le soleil s'obscurcit. Et d'où ces trois heures sombres de la croix où Christ seul a vécu cet abandon inouï qu'on ne peut pas imaginer. Il se peut que les crucifixions étaient courantes à cette époque et que la foule était familiarisée à tout ce processus de condamnation, mais ça n'empêche qu'il fallait oser évoquer ainsi ouvertement ce supplice et en plus l'utiliser pour donner un tel enseignement. Raymond, dimanche dernier, nous avait rappelé les détails et les codes de ce mode de condamnation le plus horrible qui ait été inventé. Et notre Seigneur, par ses paroles, va vraiment très loin. Mais nous savons qu'il est allé très loin dans son œuvre de rachat, en portant lui réellement sa croix. Et néanmoins, il utilise ce symbole de la croix, comme pour nous faire comprendre pratiquement le vrai sens de renoncer à soi-même. À partir de ce que notre Seigneur a vécu, donc se souffert, se rejeter, mis à mort et ressuscité, je vous propose de voir de plus près ces trois étapes de la vie chrétienne. La première étape, c'est celui qui porte sa croix, souffre. Comme notre Seigneur, avec sa couronne d'épines, souffrait des moqueries, souffrait de ne plus pouvoir vivre avec les siens, suivre Jésus entraîne le rejet du monde et nécessite de lâcher ses envies et les plaisirs de la vie. Pour nous qui sommes épargnés par les souffrances physiques liées à la persécution dans notre pays libre, nous ne sommes pas pour autant épargnés par les souffrances morales. Les frustrations que nous vivons lorsque nous décidons de suivre Jésus. Il est évident que les incrédules ne se posent pas autant de questions que nous. Pour la plupart, ils ne ressentent pas forcément de contraintes, car tout est permis. Prisonniers qui sont dans le monde du péché. Et nous avons à notre disposition, nous, un panel inouï de distractions, d'activités, de plaisirs, voire de produits qui ont la fâcheuse tendance de nous accaparer notre esprit et de nous éloigner de Dieu. Nous qui désirons suivre Jésus, nous nous trouvons donc dans ce conflit permanent de faire ce que je ne veux pas et de ne pas faire ce que je veux. Notre esprit est prompt, mais la chair est faible. Le fait de se charger dans notre croix augmente cette souffrance, mais en contrepartie nous permet, au bout du chemin, finalement de faire une croix, de nous libérer de ce que nous avions du mal à renoncer et qui nous empêche de suivre Jésus. Et sur ce chemin, il y a quelquefois des passages difficiles, et cette croix est difficile à porter tout seul. Et comme notre Seigneur a eu besoin de Simon de Cyrène pour porter sa croix, nous avons besoin d'amis, nous avons besoin de nos enfants, nous avons besoin de l'Église, de nos frères et sœurs, pour nous faire ressentir l'œuvre du Saint-Esprit quand le passage devient trop difficile. C'est humain, nous ne voulons pas aller jusqu'au bout du chemin. Nous ne voulons pas aller jusqu'à la croix, nous ne voulons pas mourir. Mais nous avons à nous encourager et à nous exhorter. Combien de prétextes nous avons pour ne pas lâcher prise? C'est clair que ce n'est pas un message qui fait plaisir, ce n'est pas un message politiquement correct, mais quel encouragement spirituel lorsque nous nous trouvons découragés de se rappeler cet enseignement de notre Seigneur, car il ne nous a pas promis la tranquillité ici-bas. Et en continuant ce chemin, il y a eu pour notre Seigneur Golgotha, le lieu où la croix a porté Jésus, où les péchés ont été lavés, où il a laissé sa vie. Et on arrive à la deuxième étape. Celui qui porte sa croix est condamné à mourir. Et ça, c'est compte tenu de la présence de ce sujet dans presque chaque épître de Paul ou de Pierre. Cela donne une idée de l'importance de ce point dans notre vie chrétienne. Alors, c'est vrai, on comprend assez bien cette notion de mort physique que risquent ceux qui ont décidé de suivre Jésus en renonçant à leur vie même dans les pays où sévit la persécution. Mais comprenons-nous de quelle mort il s'agit dans la plupart de ces passages. Romains 6, 1 Pierre 2 nous parle de mort au péché. 2 Corinthiens 4, verset 16, homme extérieur qui se détruit. Galates 5, 24, nous avons crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Éphésiens 4, instruit à nous dépouiller par rapport à notre vie passée. Philippiens 3, 7, Colossiens 3, vous êtes mort. 2 Timothée, on est mort avec Christ. C'est partout. Et la plupart de ces passages évoquent la conséquence du renoncement à nos passions, à nos désirs, le renoncement à notre vie passée, à notre famille peut-être, à nos amis. Et ça, c'est en quelque sorte une fin. C'est la mort de notre vieil homme qui se nourrissait, lui, vraiment que de ces choses. C'est évident, c'est pas facile à vivre, il y a des chutes. Mais la parole nous fait ses promesses que nous avançons de progrès en progrès. Le Saint-Esprit fait son œuvre en nous. Et à la fin de ses souffrances, bien souvent, il y a la louange qui éclate. Il y a une bonne odeur qui peut monter vers notre Dieu. Et ça, j'ose faire cette allusion au corps de Christ qui a été embaumé dès qu'il a été descendu de la croix. Ce sont ces sacrifices qui sont agréables à l'Éternel. C'est un esprit brisé, nous dit le psaume 51. Et enfin, la dernière étape de tout ce processus, celui qui porte sa croix est destiné à ressusciter. Et ça, ben merci Emmanuel de me l'avoir rappelé avec ce grain de blé. Et oui, cette graine qui meurt, qui reste isolée, seule, peut-être dans un silo, avant d'être semée en terre, de mourir, pour après pouvoir ressusciter, germer, porter du fruit. Et j'ai été étonné justement en lisant tous ces passages dans les Épîtres qui évoquent la mort de notre vieil homme. Mais je peux vous les laisser, ces passages, ils sont tous suivis immédiatement après par notre nouvelle vie cachée en Christ. Nous marchons en nouveauté de vie. De suite après, nous vivons par l'Esprit. Nous avons revêtu l'homme nouveau. Nous sommes une nouvelle création. C'est le but, ça, ultime de l'œuvre de salut de notre Sauveur. C'est de nous amener à ce niveau-là de sainteté. L'œuvre du salut ne consiste pas seulement à effacer toutes nos fautes, mais aussi à nous transformer jusqu'à ce que nous soyons parvenus à l'état d'homme fait, jusqu'à la parfaite stature de Christ. Et pour terminer la suite de ces versets, qui conclut un peu ce passage, ça continue après, mais ça serait trop long, car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ces paroles peuvent nous déstabiliser. Jésus, là, nous révèle une pensée vraiment paradoxale. Nous voulons sauver notre vie, on la perd, et nous croyons perdre notre vie, on la gagne. Une fois de plus, cette logique est en totale contradiction avec notre logique. Alors pourquoi perdre sa vie ? Jésus répond, à cause de moi. C'est la seule cause valable. Perdre sa vie est bien entendu une conséquence que l'on ne cherche pas. Le chrétien n'est pas une personne suicidaire. Tout simplement, pour ceux qui ont décidé de suivre Jésus-Christ, le Créateur a engagé ce processus. J'oserais dire naturel, comme la graine. Ce processus de libération, de sanctification, et au rythme que nous supportons, à notre rythme. Le Saint-Esprit qui fera de plus grandes choses que le Seigneur lui-même, ça c'est c'est une promesse qui est écrite, une parole du Seigneur, le Saint-Esprit fera de plus grandes choses que lui. Il fait son œuvre dans le cœur, il fait cette œuvre-là de régénération. N'oublions pas que nous étions vendus au péché, n'oublions pas que nous étions des pourris. Et que cette œuvre de nous régénérer complètement, c'est quelque chose d'inimaginable, impossible. Et le Saint-Esprit fait cette œuvre en nous. Juste pour nous faire toucher du doigt vraiment cela, c'est ce message de l'Évangile. Allons vraiment jusqu'au bout. Alors, on en est tous à des points différents. Et c'est ça, moi, qui me fait plaisir. On est tous égaux vis-à-vis du péché. On a ce péché qui nous enveloppe aisément. On n'est pas meilleurs les uns que les autres. Nous avons tous des choses secrètes ou même des choses visibles que le plan de Dieu veut régler dans nos vies. Alors faisons-lui confiance, laissons-le agir. Il veut nous revêtir d'habits nouveaux. Alors je ne sais pas si on peut chanter ce chant. J'ai décidé de suivre Jésus-Christ. Mais je ne savais pas que ça me coûterait tout ça. Mais je pense que ça vaut la peine. Nous avons décidé, on souffre, mais acceptons de tout lâcher pour que peut-être ces souffrances diminuent, nos souffrances diminuent, il y a des choses qui nous brisent, qui nous font du mal, on en est tous là, mais lâchons prise.
Dans ta vérité, j'ai décidé à décider. Je n'ai pas décidé de faire les annonces, mais il fallait que je les fasse. Alors, les annonces concernant la vie de l'Église cette semaine. Mercredi soir, la chorale, ici, à 20h30. Jeudi, à 18h, la pastorale, réunion de la pastorale. Jeudi, 20h30, vous pouvez regarder votre voisin, lui demander s'il a décidé de venir à la réunion de prière. Vous pouvez l'accompagner aussi. Samedi, le groupe de jeunes, et dimanche prochain, notre culte. Voilà pour cette semaine, je n'ai pas oublié d'activité cette semaine. Juste, je voulais vous donner une info qui est toute récente. En Dieu voulant, je dis bien Dieu voulant parce que c'est encore en train de se caler, le dimanche 29, dans deux semaines, on avait un cinquième dimanche, on va le bousculer. On aura le plaisir de recevoir David Ratovo, qui est en passage en France. On s'est battu pour réussir à l'avoir le dimanche et... On aura le dimanche, qui apportera donc le message, le dimanche 29, du voulant. On se réjouit aussi pour ça.
Je veux juste rajouter que dimanche prochain, soyez là, ça va être un culte très spécial, parce que c'est le culte animé par le groupe des jeunes.
Donc ne ratez pas le culte de dimanche prochain. Nous avons appris cette fin de semaine le décès du papa de Paul Vandenberg. Et je vois qu'il y a Lucas qui est là, juste en face de moi. On voulait vraiment, toute l'Église, vous transmettre notre amitié, notre affection, et dire qu'on pense très fort à vous. Paul et Anne sont partis hier aux USA, donc où est décédé le papa de Paul. Donc on veut vraiment penser à cette famille qui souffre de ce départ aussi. Pensons à nos malades. Je pense à Robbie, je pense à Guylaine aussi, qui de nouveau n'est pas bien. On veut vraiment penser aux personnes qui sont fatiguées physiquement, aux personnes qui souffrent aussi moralement dans l'Église. Donc on veut aussi remettre vraiment ces personnes. Et c'est important aussi pour cela de venir à la réunion de prière, pour partager tout cela ensemble. Voilà. Et puis j'ai encore, ça va être court, hein, j'ai encore une annonce à vous faire. Laure a proposé de mettre à disposition, de vendre des bouquins. C'est un livre témoignage de Philippe de Courroux, chanteur. Elle en a plusieurs, elle va se tenir au fond. Là, vous pouvez les avoir à un prix canon, m'a-t-elle dit. Et voilà, c'est intéressant, c'est tout un témoignage de vie, une démarche de vie d'une personne qui a eu une vie assez particulière. Donc vous pouvez trouver ça auprès de Laure, au fond. Il fait un temps à la lecture aujourd'hui, donc voilà une bonne occasion. Voilà, ce sont toutes les annonces que j'avais pour aujourd'hui. Alors je vous invite à vous lever, je vous lirai encore quelques petits versets. Dans les épîtres qu'on trouve, on parle souvent de Paul, dans les épîtres il y a toujours un petit mot au début et souvent une bénédiction à la fin. Et il y a un mot d'encouragement dans cette épître, qui est l'épître aux Philippiens, où Paul dit cette phrase qui est fabuleuse et mon vœu, notre vœu à chacun, ça devrait être que Dieu puisse le dire pour nous. Je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Est-ce qu'on se rend compte de l'amour que Paul avait pour cette église de Philippe? Donc il dit ça au début, je rends grâce à mon Dieu toutes les fois que je me souviens de vous. Et puis à la fin de son épître, il dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, c'est ce qu'on nous a un petit peu dit ce matin aussi, en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ. À Dieu notre Père, la gloire, au siècle des siècles. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun. Dieu vous bénisse.